Sous la Voie lactée, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître. La Voie lactée, c'est plein de toutes petites étoiles, parce qu'en fait, elles sont toutes petites, ces étoiles. Mais elles sont des milliards, et c'est ça qui fait cette lumière, ce halo. La Voie lactée, ça peut être tous les êtres humains, et ça peut aussi être toutes ces pensées. Voilà, et c'est ça qui nous éclaire la nuit quand on se promène, soit dans une ville, soit dans une forêt. Voilà, c'est parti pour une nouvelle balade sous la Voie lactée sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître. Il est minuit et on ne sait pas très bien si on est encore dimanche ou déjà lundi. Mais si vous êtes éveillé à cette heure, il est toujours temps de quitter votre chambre, de descendre dans la rue pour partir à la rencontre d'autres voix qui s'élèvent à travers le monde et cheminer ensemble de texte en texte pendant une heure. Si vous avez envie de partager une lecture ou d'éclairer le ciel d'été avec vos propres textes, que ce soit une nouvelle, une chanson, un essai ou toute autre forme littéraire, vous pouvez nous les faire parvenir sur la messagerie de l'émission sous la voie 89.4@proton.me. Les infos sont sur le site de Radio Libertaire. C'est avec grand plaisir que j'essaierai de les lire lors d'une prochaine émission. Je vais commencer ce soir par vous lire une phrase, enfin plutôt un titre. Je lisais un dossier de quelques pages publié dans Courrier International fin juin 2022 et dont le titre continue de me poursuivre. Ce titre est très simple, « La guerre contre les femmes ». Il fait presque penser à un titre de roman de science-fiction, du genre « La guerre des mondes » d'Orson Welles. Un titre qui ne pèse pas lourd en mots, en encre, et curieusement, qui se répand comme de l'huile, qui s'insinue dans les pensées, d'abord en surface, puis plus profondément. Mais cette fois, ça ne ressemble pas à un canular. Je vous lis une ligne de l'article en question. Le 24 juin, donc 2022, la Cour suprême révoque l'arrêt Roe versus Wade, qui a accordé en 1973, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, le droit à toutes les Américaines d'avorter, et j'ajoute, sans restriction. Aujourd'hui, il y a environ 340 millions de personnes vivant aux États-Unis d'Amérique, et donc autant de personnes concernées, et plus particulièrement 64 millions de femmes en âge de procréer, directement concernées par la disparition de ce droit à l'avortement dans certains États. Et quand on sait que l'accès aux soins, notamment gynécologiques, peut devenir un vrai casse-tête, même en France, par manque de médecins, par le prix des consultations, des actes médicaux et des médicaments, ajouter un obstacle supplémentaire, celui du droit, qui fait entrer l'IVG dans l'illégalité, signifie de fait que la vie de certaines femmes est consciemment mise en danger et que des vies vont être brisées. On peut dire que Joe Biden n'a pas l'air de se sentir concerné par le problème. En revanche, de nombreuses manifestations ont eu lieu suite à cette révocation. Si on fait le point, un an plus tard, d'après une carte du Times d'avril 2023, il y a actuellement 13 États où l'IVG est totalement interdite, sans exception, pour viol ou inceste aux USA. En voici la liste. J'ai donc noté pour les États interdits d'Amérique, Dakota du Sud, Wisconsin, Missouri, Oklahoma, Arkansas, Kentucky, Virginie-Occidentale, Tennessee, Texas, Louisiane, Mississippi, Alabama, Idaho. On compte aussi 5 États où l'IVG est restreinte, l'Utah, l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, la Floride. Dans ces États, l'avortement peut être autorisé si on reconnaît que la grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste, ce qui est évidemment déjà très difficile à faire reconnaître. Ensuite, ces restrictions peuvent remettre en question la période où l'IVG est autorisée. Par exemple, en Géorgie, l'IVG est autorisée seulement dans les 6 premières semaines de la grossesse, ce qui représente un temps vraiment très court. On peut saluer les juges défenseurs de l'IVG qui, au niveau local, tentent de bloquer ou ont pu retarder cette interdiction. Il reste aujourd'hui 6 États où l'interdiction est encore bloquée par la justice. Montana, Dakota du Nord, Wyoming, Iowa, Indiana et Ohio. Il y a heureusement 26 États et un district où l'IVG est protégé. Washington, Oregon, Nevada, Californie, Alaska, Colorado, Nouveau-Mexique, Nebraska, Kansas, Minnesota, Michigan, Illinois, toute la côte nord-est, Maine, Vermont, New York, Pennsylvanie, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginie, auxquels s'ajoutent la Caroline du Sud, Hawaï et le district de Columbia. Voilà, ça se passe maintenant, au XXIe siècle, aux États-Unis d'Amérique, sous nos yeux très informés. Mais pas seulement là-bas. On va glisser sous la courbure de la Terre, vers l'ouest, survoler l'océan Atlantique et toucher le littoral européen. Mais avant, on a le temps d'écouter la merveilleuse Maggie. Alors attention le jeu de mots, Maggie Boll, qui interprète à sa manière la non-demande en mariage de Georges Brassens. C'est un morceau de l'album « T'as vu la Vierge ?» qu'on peut trouver à Besançon. Et si ça vous fait un peu trop loin, vous le trouverez aussi en passant par le site internet de Maggie Boll. Si vous ne connaissez pas cette chanteuse, courez la découvrir. Elle a un humour exceptionnel, elle est rayonnante comme le soleil, et c'est elle qui écrit et compose ses chansons, à part quelques reprises. Allez, on écoute Maggie.
De casarme, no quiero. De casarme, no quiero. Mami de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs au queue des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te fait vieillir. éternelle fiancée à la dame de mes pensées. Toujours je pense, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Tengo l'honneur
ensemble sous la Voie lactée sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître. Et l'on vient d'écouter la non-demande en mariage par Maggie Boll, Maggie la magnifique. Voilà, après un survol des États-Unis d'Amérique où le droit à l'avortement n'est plus accordé à toutes les femmes, alors que c'était le cas depuis 1973, posons-nous maintenant en Europe pour voir ce qu'il en est sur le vieux continent. Là, on voit que la Suède avait bien commencé en 1938, en autorisant l'avortement. Mais il faut quand même attendre 30 ans pour qu'un second pays, le Royaume-Uni, en fasse autant. On voit aussi d'importantes différences selon les pays, notamment pour le délai qui est accordé pour pratiquer l'IVG par libre décision sans restriction. De 18 à 24 semaines en Suède, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, on passe à 14 semaines en Espagne, 12 en Italie, 10 au Portugal. Il faut souligner le rôle néfaste de l'Église catholique dans certains pays, comme l'Italie ou la Croatie, où l'IVG est bien autorisé, mais où les médecins font fréquemment jouer la clause de conscience qui leur permet de refuser de pratiquer l'IVG. On le constate aussi en Pologne. En effet, alors que l'avortement était autorisé sans restriction depuis 1993, il a failli être totalement interdit en 2016, ce qui a provoqué d'importantes manifestations. Ce droit est malgré tout limité depuis 2020, car il est seulement autorisé en cas de risque pour la santé de la femme enceinte ou en raison d'une grossesse résultant d'un acte illégal. En Irlande, avant 2013, il était totalement interdit. Mais depuis 2019, il est autorisé sans condition. Chypre l'autorise seulement en cas de viol ou de risque pour l'enfant ou la femme enceinte. Malte l'interdit toujours totalement. Maintenant, rapprochons-nous encore. Et en France, me direz-vous ? Eh bien, l'IVG est autorisé jusqu'à 14 semaines de grossesse. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il a fallu manifester. Comme en 1971, quelques mois après la publication du manifeste signé par 343 femmes, souvent issues du monde de la littérature, de la politique, du spectacle, déclarant avoir avorté, brisant ainsi un tabou bien ancré. Ce manifeste a participé à encourager des dizaines de milliers de femmes à descendre dans la rue pour obtenir ce droit. Et c'est en 1975, avec la loi Simone Veil, que l'avortement est enfin autorisé sans condition en France. Il faut aussi se souvenir que sous le régime de Vichy, la justice a été tranchante. Non seulement l'avortement y est interdit, mais de surcroît, il est considéré comme un crime d'État, passible de la peine de mort. On peut saluer la mémoire de Marie-Louise Giraud, qui sera guillotinée en 1943 à La Roquette, pour avoir aidé une trentaine de femmes à avorter. La même année, Désiré Pioche subira le même sort pour avoir pratiqué 3 avortements. On pourrait continuer longtemps, faire le tour du monde, pays après pays, puis effectuer le même parcours sur la question de la contraception. Mais arrêtons-nous, arrêtons le flux de l'actualité, des informations, le cours de l'histoire, et essayons de comprendre pourquoi le corps des femmes est sans cesse un problème dans les sociétés qui le désignent comme le corps du délit. C'est peut-être tout simplement qu'il y a là un moyen très efficace d'oppression et de domination. Et je ne parle même pas du corps de ceux qui ne se sentent pas en adéquation avec le genre auquel la société veut les assigner. Alors pourquoi pas imaginer qu'on finisse par accepter qu'il y ait des corps différents, qu'ils ont tous autant de droits, quelles que soient leurs particularités, sans avoir à établir de hiérarchie, sans avoir à légiférer sur les uns ou sur les autres. Il faudrait pour cela accepter de renoncer à prendre le pouvoir sur l'autre, en se servant de son corps comme moyen d'oppression. Ouais, je sais, je demande la lune. Certains vont me dire que je rêve, que je suis utopiste. Alors qu'en fait, il suffit de voir qu'un être humain, ou un groupe d'êtres humains, a pu renoncer un jour à en opprimer un autre pour se dire que c'est réaliste et faisable. Bon, je vous l'accorde, comme disent les promeneurs en forêt, il y a encore du boulot. Mais alors, ma petite Luciole, on n'est pas près d'arriver. On va marcher jusqu'où, comme ça? Arrêtons-nous pour regarder le ciel. Cette nuit, c'est la nouvelle lune. Lorsque le ciel est dégagé, c'est la nuit la plus favorable pour observer les étoiles, car la lune est invisible pour nous. Dans cette obscurité où perce la lumière vaporeuse de milliards d'étoiles, ne sentez-vous pas souffler un vent d'espoir, un souffle nouveau? On dirait qu'il porte la fraîcheur de l'odeur des étoiles du jasmin ruisselantes sur les murs des jardins. Il s'y mêle aussi l'odeur âcre, presque palpable, de la poudre et des cendres grises laissées par le feu derrière lui. Ce souffle d'espoir, il arrive d'Iran, et c'est une longue histoire. Écoutons, pour commencer, deux poèmes de Farrukh Farrukhzad, né à Téhéran en 1934. Marié à l'âge de 16 ans, Farrukh se tourne très tôt vers la littérature. À 20 ans, elle devient célèbre en publiant son premier recueil de poèmes, Le Captif. Il est jugé sulfureux parce qu'elle y parle de son désir de femme, de l'amour charnel, des sentiments amoureux. Elle s'intéresse ensuite au théâtre et au cinéma, tout en continuant de publier de la poésie. C'est une femme libre qui vit aussi intensément qu'elle sera jugée. On lui reproche des relations extra-conjugales qui aboutiront à un divorce à charge. Elle se remet difficilement de cette épreuve, connaît l'internement en hôpital psychiatrique. Et elle meurt prématurément dans un accident de voiture en 1967, à l'âge de 32 ans. Nous allons écouter La solitude de la lune, puis Le don. Ces deux poèmes sont extraits de son recueil Une autre naissance, publié à Téhéran en 1964, et qui a été traduit par Laura et Ardeshir Tirandaz, publié aux éditions Zéro Limite en 2022. Dans la pleine obscurité, les grillons criaient « Lune, ô grande lune !» Dans la pleine obscurité, les branches, les bras grands ouverts, offrant leur souffle amoureux au ciel, et la brise résignée, soumise aux dieux inconnus et secrets, et ses milliers de respirations clandestines dans la vie souterraine, tous criaient « Lune, ô grande lune !» Et les lucioles en ronde lumineuse et fugitive, l'insomnie sous le plafond de bois, Layli derrière ses rideaux, les crapauds des étangs, tous jusqu'à l'aube criaient « Lune, ô grande lune !» Dans la pleine obscurité, un rayon enflamma la lune. Lune, cœur esselé de la nuit, sur le point d'éclater en sanglots dorés. Du fond de la nuit, je parle. Du fond de la nuit, du fond de l'obscurité. Ô ami, si tu viens dans ma maison, apporte-moi une lumière et une petite fenêtre que je puisse voir la foule dans la rue heureuse. Thank you. On se promène ensemble sous la Voie lactée sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître. Et on vient d'écouter La solitude de la lune et Le don de la poétesse iranienne Forou Farrokhzad. Un solo de oud nous a accompagnés dans la lecture de ses poèmes. Il est issu de l'album Daryavar de l'ensemble Barbat, composé de 5 jeunes musiciens iraniens. Pour prolonger cette nuit iranienne, je vous propose maintenant de partir à la rencontre de Flora et de Reza. Ils sont arrivés en France à la fin des années 80, fuyant la République islamique de l'Ayatollah Khomeini. Amoureux, complices maintenant depuis de longues années, ils ont toujours à cœur de partager les nombreuses saveurs de la culture iranienne. Bonsoir Flora, bonsoir Reza.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, merci de nous rejoindre sous la Voie lactée sur Radio Libertaire. Reza, tu as écrit donc il y a quelques mois un poème en hommage aux femmes iraniennes. Femme, vie, liberté, que je vous propose d'écouter en français puis en iranien et dont on va pouvoir discuter après. Pour toutes les femmes et les massas du mouvement de la jeunesse iranienne, septembre 2022, Reza. Femme, vie, liberté. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était la femme. Et la femme est devenue la mère du Verbe. Et la vie, le sens de la femme, pleine d'espoir, pleine de lumière, reflétant des mots pleins de couleurs, telles les gouttes bleues de la pluie, tombées sur les lèvres sèches du désert. Telle la douce brise du matin caressant le visage des enfants démunis. Tel le cri des oiseaux enchaînés, aux ailes cassées, malmenées. Tel des milliers d'autres mots, blessés, cassés, ligotés. Ainsi la femme est devenue le signe de la vie, ici et maintenant, partout et toujours. La raison de l'émancipation et un chant plaidoyer, comme Neda, comme Massa. Debout, sur tous les chemins, le visage marqué de blessures, avec dans le regard l'image de souhaits envolés, avec dans la voix la mélodie mystérieuse de douleurs accumulées, comme Neda, comme Massa. Massa est devenu un livre ouvert, incrusté sur les feuilles des arbres, dont le refrain est « Femme, vie, liberté ». Elle est un hymne pour se lever, pour résister et ne pas tomber. Elle est devenue une voie pour arriver, ni à un endroit, ni à une position sociale, mais bien pour pousser sans bassesse, pour grandir bien dans la sagesse, aller tout droit vers la vie sereine, devenir éternelle, telle femme, vie et liberté.
برای تمامی زنان و مهساهای جنبش جوانان ایران رضا سپتامبر 2022 زن زندگی آزادی در آغاز کلمه بود و آن کلمه زن بود آنگاه که تاریکی بر آسمان زمین خیمه زد و هیچ راهی بر هیچ کس گشوده نماند فریاد کلام به زنجیر بسته ای فرا رفت و سقف آسمان گشوده شد ابربانگی بود پر از آذرخش سیمای مهسا بود همزاد ماه سپیده و تابان پر از کلام پر از پیام از این کران تا آن کران در آغاز کلمه بود و آن کلمه زن بود زن مادر کلمات شد و زندگی معنای آن پر از امید و روشنایی اما زندگی یک کلمه نبود قطرات آبی باران بود بر لبان خشکیده کویر وزش آرام نسیم بود بر چهره کودکان فقیر فریاد پرندگان بود شکست بال در زنجیر و هزاران هزار کلمه دیگری این چنین مجروح شکسته و اسیر
و این چنین زن نشان زندگی شد در این گاه و اون گاه و هر جا دلیل راه شد برای رهایی آهنگی برای داد خواهی مثل ندا مثل مهسا ایستاده بر تمامی راه ها بر چهرش کتیبه ای از زخم ها در نگاهش تصویر آرزوها و در کلامش آهنگ پر رمز دردها، مثل ندا، مثل مهسا. مهسا کتابی شد برای خوندن، سرودی شد برای قامت برافراشتن، سختی ایستادن و نیفتادن، راهی شد برای رسیدن، اما نه به جایی و جاهی، برای خوب رستن و بهتر شکفتن، برای راست رفتن و جاودان شدن، راهی شد مندگار، راهی شد مندگار و هموار برای شدن، رفتن و رسیدن، مثل زن، زندگی و آزادی.
On est ensemble sous la Voie lactée sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître. Et nous venons d'écouter le poème de Reza en hommage aux femmes iraniennes. Merci Flora, merci Reza.
Merci.
Et donc, est-ce qu'on peut dire quelques mots de ce poème et notamment qui est Neda ?
Donc, en juin 2009, il y a eu une grande manifestation populaire contre le résultat d'élections présidentielles où Mir Hossein Mousavi devrait être élu contre Ahmadinejad. Tout le monde, en fait, était dans la rue, prêt à ce moment-là, justement. Basiji, donc tireur, qui a tiré directement sur Neda et qui était à ce moment présent dans la manifestation.
Et qui est Mahsa ?
En fait, Mahsa, donc, c'est la fille qui était tuée, en fait, suite à un contrôle de police des mœurs en Iran, en septembre 2022. Donc, cette fille, lorsqu'il était arrêté, après, il a subi des tortures d'une certaine manière, et suite à ces violences, il a eu une hémorragie cérébrale qui était conduite à sa mort.
Et toi, donc, tu as suivi les informations donc, qui nous arrivaient et quelques temps plus tard, tu as écrit ce poème.
En fait, suite à cet événement terroriste, donc, la population iranienne a vraiment réagi rapidement. Donc, ils ont commencé de déclencher un grand mouvement de la jeunesse. Du coup, c'était tellement en fait impressionnant. Donc, je pense que chaque personne qui entendait ces voix, il était d'une certaine manière aussi attristé et aussi impressionné. Donc, personnellement, j'étais touché profondément.
Et du coup, au tout début, l'embrasement a eu lieu à quel endroit en Iran pour qu'on arrive à se situer ?
C'était à Téhéran, en fait. Ça commençait à Téhéran, oui.
Et Mahsa elle-même était originaire.
Voilà. Mahsa elle-même, c'était originaire de la région de Kurdistan. Et elle était venue avec son frère pour faire une visite, comme chaque citoyen, citoyenne iranienne. Donc, mais à ce moment, donc, il a été donc, le sujet d'un contrôle des polices de mœurs. Donc, il a été arrêté.
Et alors, très rapidement, on a un écho dans les autres régions iraniennes, en fait.
En fait, l'écho en fait, de cet événement, en fait, de cette répression douloureuse, donc qui a abouti en fait à la mort de Mahsa, ça tout d'un coup a été propagé dans tout le pays, et bien sûr donc la région Kurdistan, donc ils ont réagi aussi rapidement.
D'ailleurs, on peut peut-être parler de la police des mœurs.
Ils avaient mis en place des groupes qui intervenaient auprès de la population pour surveiller leur façon de comportement, en fait, et aussi l'habillement. Mais c'était une façon de faire la répression, en fait. C'était pas que pour signaler qu'ils n'ont pas très bien porté le foulard.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est à quel point les femmes iraniennes contribuent finalement à la vie politique. Est-ce que peut-être, Flora, tu veux nous dire aussi quelque chose chose sur cette histoire des femmes iraniennes.
Je pense que oui, ça fait plus de 150 ans que les femmes iraniennes essayent de trouver leur place. Il y a eu plusieurs tentatives d'arriver à des droits égaux comme les hommes. Mais comme en Iran, les mouvements sociaux et les mouvements pour la démocratie ont pris un rythme de zigzag. On arrive à un certain niveau. On dit qu'on va arriver, mais finalement, on finit par un gouvernement répressif.
On peut reparler peut-être un petit peu de 79 et ce qui s'est passé justement en 79. Elle jouait déjà un rôle en fait à ce moment-là.
Les femmes iraniennes ont participé activement au mouvement de la révolution du Shah qui avait des revendications plutôt libertaires et aussi pour la démocratie, aussi pour la souveraineté d'un peuple. Or, après la révolution, elles ont été ignorées, leurs droits ont été bafoués. La répression a commencé en même temps que la répression contre tout parti politique.
Oui,
aussi.
Ça c'est important aussi de le dire. C'est-à-dire que petit à petit, ce nouveau gouvernement installé a fait taire toute possibilité d'opposition.
Exactement. On a eu un printemps de liberté en 1979-80. Et il y a eu beaucoup de femmes qui ont commencé à sortir de la maison, d'aller dans les débats publics, acheter des livres, commencer à s'intéresser aussi même débats que les hommes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que paradoxalement, après la révolution qui a été finie par devenir un État islamique, le gouvernement a permis aux femmes de s'instruire et faire des études. Et donc, à ce moment-là, les femmes, toutes les femmes, même les femmes qui étaient d'une famille traditionnaliste, etc., se sont inscrites à l'école, à l'université, et les nombres des femmes qui ont réussi de faire des études supérieures a augmenté pendant cette période, après la révolution. Il y a Shirin Ebadi, qui était juriste à l'époque. Elle a pu avancer des lois, notamment sur le mariage, monter l'âge légal de mariage des jeunes filles.
Qui a protégé les enfants, du coup, aussi.
Qui a protégé aussi les enfants. Donc, c'était vraiment dans la période où il y a eu les réformistes. Donc, elles se sont montrées. Et tout de suite après, il y a eu le mouvement 1 million signatures. Qui a commencé dans des périodes vraiment très difficiles. Et il y a eu plusieurs... les femmes ont profité de 8 mars, par exemple, de faire des manifestations et revendiquer leurs droits. Ces derniers temps, il y a énormément de divorces et les jeunes veulent plus se marier. Donc, il y a des raisons économiques à ça, mais il y a aussi... le fruit des années d'études des filles qui donnent ce résultat.
Reza, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais justement signaler quelques points. Donc, la femme iranienne, donc, vraiment, était historiquement toujours présente en fait, sur tous les champs sociaux, politiques, culturels. Elle a une volonté de montrer sa présence, son existence et de chercher d'une certaine manière les voies d'acquérir ses droits. Donc c'est ainsi qu'elle essaie toujours de participer dans tous les mouvements, dans toutes les activités politiques, sociales, économiques et aussi de faire des études à haut niveau. Donc, ce mouvement en fait, des femmes vraiment a ses racines dans l'histoire des femmes iraniennes. Dès qu'elles sentent en fait, une répression, elles réagissent rapidement. Elles ne sont pas des êtres soumis.
Elles ne sont pas des êtres soumis et leur courage inspire les chanteurs et les musiciens d'aujourd'hui. Nous allons maintenant écouter Baroyeh de Shervin Hajipour qui rend hommage aux femmes kurdes et iraniennes et on en reparle juste après avec Flora et Reza.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بی پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
On est ensemble sous la Voie lactée sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous venons d'écouter Baroyeh de Shervin Hajipour. Je vous propose de continuer notre conversation avec Flora. Elle va nous parler de ce que nous venons d'entendre.
Cette chanson a été composée par Shervin Hajipour, qui est un artiste en Iran, un jeune artiste, une trentaine d'années. Et tout de suite après la révolte, après la mort de Mahsa, il a composé cette chanson et il a mis tous les ingrédients de revendication de toutes les catégories sociales, tout ça, en Iran. Et il a nommé aussi sa chanson « Femme, vie, liberté ». Et Baroyeh, ça veut dire « pour ». Et elle commence et dit « pour la liberté des femmes, pour chanter dans la rue, pour danser dans la rue, pour les enfants afghans en Iran qu'on s'en occupe pas, pour les étudiants, pour les gens qui n'ont pas d'argent, même pour les chiens ». Parce qu'il y a une période, ils ramassaient les chiens errants et le régime, il les tuait. Donc, même, il dit pour les chiens errants. Donc, il y a plusieurs pour à l'intérieur qui symbolisent tout ce qui ne va pas en Iran. Et à la fin, il termine par pour la femme, pour la vie, pour la liberté. Et il répète ça 3-4 fois. Pour la femme, pour la vie, pour la liberté. Et cette chanson, du coup, dans toutes les manifestations, sur les murs en Iran, est devenue symbole de ce mouvement.
Je voulais faire une parenthèse sur la prison d'Evin.
Tu parles de la prison d'Evin, mais c'est l'une des prisons qui existent en Iran, mais il y en a beaucoup, partout, dans toutes les villes.
Il y en a une autre qui s'appelle Gohardasht, c'est situé à Karaj, de 30 minutes de Téhéran. C'est une très très grande prison apparemment sur plusieurs étages et il y a beaucoup de jeunes de ce mouvement qui sont prisonniers à la Gohardasht de Karaj. Donc encore plus peut-être importante que Evin.
En
tout cas, les chiffres officiels des arrestations, c'est entre 2000 à 3000 personnes, mais on sait que c'est beaucoup plus. Beaucoup plus parce qu'il y a tous les jours, il y a des manifestations un peu partout, pas tous en même temps. Il y a des grèves dans beaucoup d'entreprises, d'entreprises de transport, pétrole, un peu partout. Personnellement, je pense que pour la première fois, le régime se sent vraiment, vraiment menacé et sans cartes à jouer. Je pense qu'ils ont joué toutes les cartes qu'ils avaient sur la table. Toutes les guerres autour de l'Iran, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, sont des périodes où le régime pouvait compter sur ses problèmes à l'extérieur pour réprimer et aussi dire à la population « Attention, nous on est en garde de la sécurité du pays, même si vous ne nous aimez pas ». Ayatollah Khamenei, le guide actuel, dans ses discours, à plusieurs reprises, il a dit « Pour votre sécurité, pour protéger votre famille, essayez de nous supporter ». Et les gens, ils ne veulent plus de ce discours. Mmh. Et les conditions géopolitiques de l'Iran et les guerres qu'il y avait autour ne permettaient pas à l'opposition de se former et constituer en fait un socle très solide pour réagir. Et le régime, justement, aussi, il est dans une position. Ils essayent de s'en sortir, par exemple. Ils essayent d'aller chercher l'amitié au côté Arabie Saoudite, avec qui c'est des ennemis jurés depuis la Révolution. Mmh. Il fait des voyages en Chine, où il fait venir le président chinois en Iran pour chercher des légitimités auprès de la population, d'abord iranienne.
Il ne faudrait pas oublier que non seulement la répression politique s'intensifie, mais aussi la crise économique, le chômage, la pauvreté. Donc ça, les gens, vraiment, donc surtout les jeunes, ils n'ont rien à faire. En fait, ils sont interdits. Pas d'avenir, donc du coup... Non, mais le régime iranien donc, n'a plus d'avenir, c'est sûr, parce qu'il n'a plus une base populaire, d'une part, et aussi, il est en fait emprisonné dans sa pensée idéologique religieuse qui ne lui permet pas d'ouvrir de perspectives.
Aujourd'hui, est-ce que les arrestations continuent ?
Dernièrement, ça fait plus d'une semaine, donc il y avait trois jeunes hommes au nom de Majid Kazemi, Saleh Emir Hashemi et Saïd Yaroubi qui étaient exécutés. Et à la suite de cette exécution aussi, il y a eu des contestations, des protestations populaires.
Donc les exécutions continuent, les arrestations continuent, mais le mouvement aussi continue.
Le mouvement aussi continue, bien sûr, et avec plus de force, plus d'espoir.
Merci Flora, merci Reza. Merci à tous les deux pour cet échange politique et poétique sur ce mouvement des femmes déclenché par l'assassinat de Mahsa Amini. Merci de faire ce lien, de nous rapprocher un peu plus des peuples iraniens et kurdes qui manifestent et se battent pour la liberté. Continuons maintenant notre voyage sous la Voie lactée sur Radio Libertaire avec Kimia, une héroïne échappée du roman « Désoriental » de Negar Javadi. Comme de nombreuses iraniennes et iraniens qui vivent en France depuis les années 80, Negar Javadi est née dans une famille qui s'est d'abord opposée à la monarchie du Shah, puis à la République islamique de Khomeini. Son roman « Désoriental », publié en 2016 par Liana Levy, croise l'histoire de trois générations avec beaucoup d'humour, de fantaisie et de profondeur. Dans le passage que nous allons écouter, Kimia, qui est amoureuse d'Anna et qui suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un enfant, est rattrapée par son passé. Elle se remémore le moment où sa vie a basculé, lors de son passage en Turquie, alors qu'elle fuyait son pays. Istanbul avait quelque chose de familier qui rappelait l'Iran d'avant la Révolution, avant que le voile islamique ne cadasse les femmes et que les fresques de propagande n'envahissent les murs. Avant les tickets de rationnement, l'omniprésence de la milice révolutionnaire, la guerre avec l'Irak, la disparition des produits tels que l'alcool, le déodorant ou le parfum. L'architecture de la ville, les habitudes des Istanbulis, le rythme des journées étaient très proches de ce que nous connaissions. Les crépuscules, quand s'élevait le chant des muezzines, avait la même couleur mélancolique que ceux de Téhéran. Notre avantage sur les Turcs était de pouvoir lire les inscriptions incrustées au fronton des mosquées, sur les arcades du bazar, autour des miniatures anciennes, au-dessus des immenses portes des palais. L'écriture arabo-persane dominait chaque monument de l'époque ottomane et la langue, un mélange de persan, d'arabe et de turc, restait en grande partie compréhensible. En optant pour un alphabet turc-latin, Atatürk avait délibérément coupé son peuple de ses racines ottomanes et islamiques, principale cause, selon lui, de son sous-développement. Sarah le déplorait. Aucune pensée moderniste ne justifiait, selon elle, qu'on prive un peuple de son histoire, l'obligeant à porter sur ses richesses culturelles le regard égaré d'un touriste. Ces diatribes sur la perte de l'identité turque étaient une façon détournée de nous mettre en garde contre la nôtre. Quelques heures après avoir quitté l'ambassade, après avoir acheté des billets d'avion, un taxi nous déposa à l'aéroport. Regardez comme nous avançons confiantes vers le douanier trapu, le visage barré d'une moustache à rendre jaloux Staline, debout derrière une guérite, aussi verte que son uniforme. Omid, qui a tenu à nous accompagner, attend quelques pas derrière nous. Sarah tend les laisser passer au douanier, qui les regarde longuement, fronçant et défronçant ses gros sourcils noirs. Ses mimiques ne nous affolent pas. Franchement, qu'est-ce qu'un petit douanier turc peut bien faire contre des papiers fournis par l'ambassade de France? Voilà qu'il lève les yeux vers Sarah et l'interpelle. Sarah sourit, hausse les épaules pour signifier qu'elle ne comprend pas. Omid s'approche et une discussion s'engage. Le douanier frappe les documents de son index, puis le pointe vers nous. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demande Sarah impatiente. Omid se racle la gorge, comme si les mots avaient du mal à sortir. Il dit « Je sais bien qu'elles vont s'en aller, mais je veux savoir comment elles sont arrivées en Turquie. » Sarah baisse la tête quelques secondes. Nous la fixons, tétanisée. « Très bien. Je vais le lui dire. » Entourée de 4 soldats, Sarah monte maintenant dans une voiture noire aux vitres teintées garées devant l'entrée principale de l'aéroport. Son départ a sur moi l'effet d'une injection d'héroïne pure. Je ne ressens aucune douleur, aucune peur, car je n'existe plus. Plus tard, j'ai des flashs de lucidité. La chambre d'hôtel à Karakoy. Je suis allongée sur le lit ou bien accroupie sur les toilettes. Layli et Mina sont là, inertes, molles, silencieuses. Je ne sais ni comment, ni pourquoi. Mais dès que je pense à Sarah, mon cerveau se met sur pause. Mon corps quitte le monde. Pendant ce temps, quelque part dans les entrailles de la ville, Sarah est interrogée par des militaires. Elle a déjà vécu cette situation. Ces mêmes questions. Cette même pièce sombre, sauf qu'on lui parlait en persan. Les heures filent et les hommes changent de visage. Chacun recommence un nouvel interrogatoire. Nom, prénom, âge, puis tout y passe. Ses grands-parents, ses parents, sa jeunesse, son mariage, ses activités politiques, son mari, ses enfants, leur départ. Et Sarah répond, essaie de ne pas montrer de signes de lassitude ou d'exaspération. Elle demande de l'aspirine et on lui en donne, mais sans eau. Elle mange la soupe aux lentilles et le morceau de pain qu'on lui apporte, pour montrer qu'elle n'a pas peur. 37 heures plus tard, le corps tremblant de fatigue et le cerveau en lambeaux, on lui met des papiers sous le nez et un stylo dans la main. « Signez !» lui demande le traducteur. « Et je signe quoi ?»« Une déclaration sur l'honneur. Vous vous engagez à ne plus jamais revenir en Turquie, ni vous, ni vos enfants. »« Pas besoin de signer, je ne reviendrai plus, » rétorqua-t-elle. « Signez quand même !» Le lendemain, nous reprenons la route de l'aéroport. Cette fois, je suis contente de partir. En 2 jours, la Turquie est devenue pour moi celle d'Anaïde et d'Artavaz, un pays où, sous la surface accueillante, se cachent les couloirs obscurs de la terreur. Nous sommes le vendredi 17 avril 1981. Il est 16h45. Aussi imposant et décidé que l'arrière-grand-père Montazem Olmok ouvrant la porte du Biruni pour affronter la tempête, l'avion est maintenant face au vent, plein gaz. D'un coup, ses moteurs vrombissent. Il se lance sur la piste, prend de la vitesse, se cabre et rejoint les airs. Tandis que tout en bas, l'Orient rétrécit, devient anecdotique, puis disparaît. Assise près du hublot, Camia Sadre, telle que vous ne l'avez jamais vue, subit le même sort. Habituée à venir au monde dans le sang et la confusion, à réveiller la mort et à la convoquer à la fête, cette renaissance de la traversée du territoire indompté et violent du Kurdistan à la chambre d'hôtel de Karakoy est indéniablement digne de la première. Bientôt, mon prénom ne sera plus prononcé de la même manière. Le « A » final deviendra dans les bouges occidentales, se fermant pour toujours. Bientôt, je serai une désorientale. On est ensemble sous la Voie lactée, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous venons d'écouter un extrait du roman « Désorientale » de Negar Javadi. Peut-être que demain, nous allons croiser une cousine de Kimia arrivée en France, avec tellement d'espoir. Que lui dirons-nous? Que partagerons-nous avec elle? Quels souvenirs? Quel avenir? Voilà, on est arrivé à la fin de cette première heure de la nuit. Est-ce d'ailleurs une fin ou un début? Quoi qu'il en soit, je remercie encore Flora et Reza, ainsi qu'Iris, qui s'est faufilée sous la Voie lactée tel un chat persan, et grâce à qui cette balade nocturne a pu exister. Nous nous retrouverons le troisième dimanche de juillet, c'est-à-dire le 16 juillet, dans la nuit du dimanche au lundi. D'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer vos textes et vos suggestions de lecture à l'adresse mail de l'émission sous-la-voix-89.4@proton.me. Les infos sont sur le site de Radio Libertaire. On se quitte en voyageant sur une mélopée tissée sur un poème persan du XIIIe siècle, écrit par Jalaluddin Rumi. « Toi et moi, Man o To », qui est mis en musique par l'artiste Nu et interprété par Gaza Chakeri. Les mots d'amour traversent mystérieusement les siècles, commençant par traverser cette nuit avec eux, Man o To.
Oh.